votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Avec les grandes voix, évidemment, nous sommes vendredi soir. Bonsoir Catherine Ney.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Michel Cotta, bonsoir.
Bonsoir.
Robert Namias, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonne année,
Mathieu,
Robert.
Merci,
vous n'avez pas encore
Mathieu.
Eu à l'antenne depuis le début de l'année.
Bonne année à vous,
si j'ai entendu deux de nos protagonistes chez Wendy Bouchard ce matin, n'est-ce pas ? Michel Cotta, Robert Namias, auteur de Fake News, un thriller politique paru chez Robert Laffont. Et je sais que nous en reparlerons dans ce grand journal, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, c'était Wendy, chez nous, ce sera un peu plus tard. Benjamin Muller est avec nous également. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, les grandes voix. Bonsoir, Ambline.
Bonsoir.
Benjamin, comme chaque vendredi, vous venez nous résumer ce qui s'est dit toute la semaine dans votre grand journal du soir. Et comme vous me le faisiez remarquer cette semaine, c'était assez brillant.
Écoutez, c'est ce qu'on va voir tous ensemble, c'est ce qu'on va voir, on va juger. Non, ce qui est vrai, c'est que cette semaine, on a pris de la hauteur à l'occasion du salon de la high-tech de Las Vegas. Vous avez toute la semaine parmi à nos auditeurs de tous ensemble nous tourner vers le futur.
Qui sont dans un futur, mais j'insiste, à chaque fois, c'est le futur proche.
Ah, mais ne vous justifiez pas, attendez, parler du futur, c'est génial, surtout que les innovations présentées, franchement, elles donnent vraiment envie, hein, Ambline ?
Europe 1.
Plus besoin de tourner un bouton, de choisir un mode, vous allez parler à votre micro-ondes et vous allez pouvoir lui demander de vive voix de chauffer votre tasse de café.
Oh là, ça y est, on a perdu Ambline. Ça va, Ambline ? Vous avez encore abusé du Beaujolais à la cantine ?
Parlez après
ben
la galette.
Oui, j'ai surtout le caramel qui colle au palais.
Le caramel qui colle au palais. C'est donc que ça, vous êtes sûr, chère Ambline, il n'y avait pas eu d'alcool ?
Ça va bien, moi je reste très sobre.
Dans ce cas, c'est parfait, tout va bien. On va donc retourner à Las Vegas, qui est quand même le but de cette petite chronique. Mathieu, il y a quoi d'autre là-bas ?
Ce soir, nous nous intéressons au sexe des tortues.
Ah non, ça c'est pas Las Vegas, Mathieu. Ça c'est votre passion cachée, ça n'a rien à faire sur l'antenne d'Europe 1. Non, Las Vegas, la high-tech, l'avenir, la modernité, ça fait rêver quand même, non ?
Parce que la modernité, c'est une belle chose, mais on a aussi vu beaucoup de travers.
Vous avez raison, Mathieu, c'est pénible, toutes ces nouvelles technologies. Mais bon, en bon journaliste que vous êtes, vous avez su faire fi de vos convictions pour parler de ces sujets qui quand même, faut bien le reconnaître, faut rêver tout le monde.
S'il est 16h59, si ça continue, il va être 17h et je ne vous aurai pas parlé d'un anniversaire. Anniversaire au mois de janvier 2019.
Ah super, c'est l'anniversaire de quoi ? De l'iPhone peut-être ? Des télés en 3D ? Des trottinettes électriques ?
Les 10 ans du statut d'auto-entrepreneur.
Joyeux anniversaire, on va bien déconner. Et c'est quand même autre chose que le micro-ondes intelligent d'Omblin, non ?
Vous trouvez que c'est vieillot la manière dont s'est organisé le débat ?
Oh mais quoi, je vous ai vexé ?
Ne partez pas dans les aigus comme ça, on est en train de discuter.
Partez pas dans les aigus, c'est ma voix qui est comme ça, j'y suis pour rien. Donc bon, là je m'adresse à nos auditeurs, vous le voyez, avec Mathieu il y a un peu d'incompréhension entre nous deux. Cette semaine, il y a eu un peu de tension même, mais rassurez-moi Mathieu, vous n'allez pas me virer tout de suite, je serai là lundi.
Ça paraît encore assez compliqué aujourd'hui de le prédire, mais merci d'être venu exposer votre idée, je pense qu'on aura l'occasion de se reparler.
Eh ben super, si on peut se reparler, je vous souhaite quand même un bon week-end.
Je vais réfléchir, Benjamin Muller. Fini pour Las Vegas, le CES de Las Vegas, c'était toute la semaine sur Europe 1. Merci Benjamin Muller, bon week-end, il est 19h28.
19h30, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et le vendredi soir, les grandes voix d'Europe 1. Catherine Ney, Michel Cotta et Robert Namias.
Nous allons reparler des gilets jaunes un petit peu plus tard. Mais d'abord, cette étude du CEVIPOF. Le CEVIPOF, c'est le centre de recherche de Sciences Po. Étude annuelle qui nous en apprend un peu plus, même s'il n'y a plus tant de surprises, puisque d'année en année, c'est de pire en pire. La défiance des Français contre les institutions politiques. Il y a plein de questions qui sont posées. L'état d'esprit des Français, alors on retrouve dans le trio de tête lassitude, morosité, méfiance. En qui avez-vous confiance ? Ça, c'est pas une surprise, mais ça revient encore. Le maire de votre commune sort en premier, très très loin devant le député, le Premier ministre, etc. Avez-vous confiance dans les institutions, lesquelles ? Les hôpitaux arrivent loin en tête, les PME, l'armée, mais globalement, ce qui ressort année après année avec cette étude du CEVIPOF, c'est qu'on manque de confiance dans nos institutions politiques. Est-ce qu'il faut y voir un signe inquiétant, Michel Cotta ?
Manque de confiance dans les institutions, moi j'ai été, alors peut-être que je me suis raccroché à la seule opinion positive, j'ai été étonnée que tellement de gens disent que la démocratie était le meilleur système en France et qu'il n'y en avait pas d'autre meilleur. Parce qu'en ce moment, justement, je pensais que comme c'est la démocratie qui est souvent remise en cause, et puis les mêmes gens disent que c'est les élections qui sont l'élément prédominant dans la vie politique. Alors qu'ils n'aiment pas les hommes politiques, ça, effectivement, on le voit, mais qu'ils soient attachés à la République et à la démocratie, ça se voit aussi. Ça ne leur donne pas davantage une bonne humeur, mais enfin, c'est le cas.
C'est le cas. Non, c'est vrai, c'est le point positif de cette étude.
Oui, Robert Nadal. Avec quand même bon, le rejet des politiques, des médias d'ailleurs, hein, qui sont toujours mis à peu près dans le même panier, et rejeter ensemble. C'est relativement banal et aujourd'hui, ça ne fait qu'accentuer et confirmer une tendance que l'on voit depuis des années. Mais moi, ce qui m'a frappé, alors c'est peut-être un item qu'il n'y avait pas avant et que les sondeurs ont introduit, mais cet item recueille un pourcentage tellement important qu'il est saisissant. C'est l'item du dégoût, le terme dégoût. Je ne sais pas si dans les enquêtes précédentes, il y avait ce terme. Il y avait méfiance ou défiance. D'ailleurs, il y a également méfiance et défiance. Il y avait même mépris, mais il n'y avait pas dégoût. Ouais,
quand vous pensez à la politique, pouvez-vous d'abord me dire ce que vous éprouvez d'abord? De la méfiance, 37%, du dégoût, 32%, de l'enthousiasme, 1%.
Voilà.
Rendez compte. Pour l'enthousiasme, mais c'est pas beaucoup.
Le dégoût pour la politique est vraisemblablement pour tous ceux qui l'incarnent. Le dégoût, c'est plus que de la méfiance. Et de ce point de vue-là, c'est là qu'on est dans une situation, à mon avis, même de rupture avec ce que nous connaissions déjà, qui était effectivement une grande distance. D'ailleurs, on va parler des Gilets jaunes dans un instant. Les Gilets jaunes expriment bien tout ce qui apparaît dans ce sondage.
On va faire un lien très clairement entre cette enquête du CVPOP.
Oui, mais moi, ce que je trouve quand même un élément positif, c'est que les Français disent qu'ils ont confiance dans les hôpitaux, c'est-à-dire quoi qu'on en dise, estiment qu'ils sont bien soignés et qu'ils ont de la chance de vivre en France parce qu'il y a les hôpitaux. Les PME, parce qu'aujourd'hui, ce sont elles qui créent les emplois et pas les grandes entreprises, 78%. L'armée et la police, 74%. Alors aujourd'hui, avec les gilets jaunes qui attaquent les policiers, on a l'impression qu'ils s'en font des ennemis de classe et on voit une haine de certains vis-à-vis des policiers. Moi, je trouve au contraire, c'est très réconfortant que les 74% des Français jugent que la police et l'armée, ce sont c'est quelque chose de qui tient.
Alors en revanche, quelque chose qui je suppose important dans le moral général, parce que c'est toujours le cas, les Français pensent que leurs enfants seront moins heureux, moins favorisés qu'ils l'ont été. Et ça, c'est très important parce qu'on voit que dans tout, pourquoi est-ce que les pays, les démocraties en éveil sont positives? C'est parce qu'elles sont toutes persuadées que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Et nous, les vieilles démocraties, on est persuadés que...
Ce sera plus dur pour nos enfants que ça l'a été pour nous. C'est plus dur pour nous que ça l'a été pour nos parents.
C'est quelque chose de très important pour l'humeur, pour la façon dont on se sent chez soi et pour la façon dont on se sent responsable.
Et même pour la compréhension du climat social, cette notion de déclassement,
Robert. Mais parce que c'est une inversion complète de ce qui est une logique de progrès permanent, qu'on avait d'ailleurs connue depuis la guerre, et au-delà même des Trente Glorieuses qu'on connaissait jusqu'à il y a une dizaine d'années, le sentiment que, fort heureusement, quand on se battait pour une meilleure intégration dans la société, un meilleur pouvoir d'achat d'ailleurs, une meilleure existence, on se battait également pour des enfants qui, à coup sûr, aurait une situation améliorée par rapport à la sienne. Aujourd'hui, en effet, ça n'est plus le cas, d'abord parce que c'est objectivement plus le cas. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes de moins de 30 ans. Le chômage est quand même extrêmement présent chez les moins de 30 ans. Et de ce point de vue-là, ils vivent moins bien que leurs parents et que leurs grands-parents. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Et qu'il a également contribué à cette espèce de désespérance collective.
Et pourtant, les jeunes ne sont pas les plus pessimistes. C'est les parents qui sont pessimistes pour les jeunes. Et les jeunes pensent au contraire davantage qu'ils s'en tireront.
Je revois ce que disait Marie, une auditrice que j'avais juste avant l'interview de Sonia au 39-21, qui nous disait aujourd'hui des gamins, nos enfants qui travaillent, mais qui ont besoin de l'aide de leurs parents, même s'ils travaillent. Ça, c'est une réalité. Catherine Ney, ce déclassement, c'est ce qui explique peut-être aussi cette morosité. J'en reviens à la notion d'état d'esprit, lassitude, morosité, méfiance.
Oui, il y a tout ça. Et puis quand même, le chômage, quand même, en Europe, la France est un des pays qui n'arrive pas à sortir du chômage depuis tellement d'années. Je veux dire, l'inversion de la courbe, on l'attend, les présidents passent et le chômage ne trépasse pas. Bon, c'est ça qui est vraiment un problème. Et on n'arrive pas à relever le niveau de l'emploi. Et en plus, il faut bien dire que les gilets jaunes, et ça, tous les patrons commencent à le dire, dans les commerces, dans les grandes distributions, le fait que pendant 2 mois, les commerces auront été fermés, je veux dire, tous annoncent qu'il y aura, il y a déjà 58 000 salariés qui sont en chômage technique, qui ne retrouveront peut-être pas tout de suite un emploi. Il n'y aura pas d'embauche dans tous ces secteurs-là, dans les villes moyennes, comme dans les grandes villes. Ça, c'est l'effet gilet jaune. Et c'est quand même très préoccupant. La croissance va être très impactée. Et donc,
mais l'amorosité, on n'est pas sûr.
L'amorosité, on n'est pas sorti de l'amorosité.
Moi, je voulais rebondir sur les maires, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que beaucoup de maires, ils sont 5000 sur les 35 000 communes, on joue le jeu de la concertation et le jeu des cahiers de doléances. Et je me dis que quand on voit que les maires sont le mieux placés, que les gens préfèrent, on revient alors à la façon dont peut-être Emmanuel Macron les a traités trop mal, a traité trop mal les corps intermédiaires dans la première année. Et au fond, ce qui revient, moyennant quoi, les maires sont plutôt sympas parce qu'ils jouent le jeu quand on leur demande de jouer. Quoi.
Même là, c'est assez surprenant parce que tout le monde s'est extasié toute l'après-midi sur le fait, a bien souligné que les maires étaient les seuls qui échappaient à la vindicte populaire et étaient seuls majoritaires, 56 ou
55%.
58%. Confiance. Il faut rappeler quand même que dans les enquêtes tout à fait récentes, il y a encore 2-3 ans, le chiffre était de 70 à 80% de confiance à l'égard des maires. Donc on voit même que là, il s'est passé quelque chose et il y a eu une érosion du rapport entre les maires et puis leurs administrés.
Les maires qui démissionnent disent que c'est quand même quelque chose de très prenant et que surtout, tout est pénalisé maintenant.
Et c'est difficile de se sentir utile, y compris du côté des maires. Peut-être que certains Français qui ont répondu l'ont compris. 19h38 Vous êtes sur Europe 1 et vous avez bien raison, nous allons continuer à décortiquer cette étude annuelle du CEVIPOF. Ensuite, nous reposerons la question des gilets jaunes, mais vous le savez bien, vous l'avez bien senti, compris. Les deux sujets sont extrêmement liés. Je vous attends au 39-21.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Michel Cotta et Robert Namias.
L'attachement à la démocratie souligné par Michel Cotta il y a quelques instants dans cette enquête annuelle du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Autre question, tiens, diriez-vous qu'en France la démocratie fonctionne ? Eh bien pas très bien, c'est la réponse à 70%. Une autre question qui est posée, à votre avis, est-ce que les responsables politiques en général se préoccupent de ce que pensent les gens comme vous ? Un total de non à 85%. Mais ne nous excluons pas non plus de cette étude, puisque dans les institutions qui sont questionnées, avez-vous confiance ? On a parlé des hôpitaux, des PME, de l'armée, de la police. Les médias ne recueillent que 23% de réponses positives. Robert Namias, ça doit nous alerter aussi.
Oui, plus que nous alerter, c'est évidemment un chiffre épouvantable. Et je dirais qu'on s'y était presque habitué en disant, bon, après tout, les politiques ne subissent que mépris, etc. Les médias sont embarqués dans le même monde médiatico-politique, donc c'est normal.
Que vous rendiez bien compte, on est derrière les syndicats, derrière les banques, derrière les grandes entreprises, derrière l'Église catholique, derrière les grandes entreprises privées. On est devant les réseaux sociaux.
Et on s'y était à peu près résolu. Moi, je crois que... Et il est temps de ne plus s'y résoudre. C'est pas possible que dans une démocratie, qui effectivement fonctionne pas si bien que ça quand même, que dans une démocratie, les journalistes, les médias, la presse, ceux qui font ce métier d'informer avec des codes qui sont quand même les codes de l'information, soient à ce point décriés. Il y a un problème qui ne peut pas rester un problème. Il va falloir trouver des solutions. D'autant plus que, effectivement, le refuge de beaucoup d'anciens lecteurs, d'anciens adeptes des médias qui écoutaient la radio, qui regardaient la télévision, qui se réfugient aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour faire leur propre information, en ayant l'impression, sans respecter aucun des codes de l'information, et en générant beaucoup de fake news, mais en ayant l'impression qu'au fond, ils sont plus proches de la vérité et du terrain que les médias traditionnels, que la presse et que les journalistes, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Il est impératif que nous réfléchissions à la façon dont on fait ce métier et comment on peut convaincre les gens qu'il ne suffit pas de colporter des informations non vérifiées.
Je l'ai lu sur Internet et ça ne s'appelle pas une information.
Et qu'on a besoin pour une démocratie d'une véritable liberté d'expression dans une presse libre, mais dans une presse qui aussi fait son métier et est reconnue.
En même temps, il y a un vrai problème. Hein. C'est que la sociologie des journalistes est quasiment identique à la sociologie des hommes politiques. Beaucoup ont fait les mêmes écoles, même si c'est des écoles de presse, mais d'autres écoles. Donc, effectivement, on peut donner l'impression... Alors, on a donné longtemps l'impression
de
d'une complaisance... Voilà, de sortir du même
la
moule.
Connivence.
Et par conséquent... Non, il y a moins de connivence, parce qu'on voit bien que les gens n'accusent plus la presse d'être favorable au pouvoir. D'ailleurs, ils auraient du mal en ce moment à l'affirmer. Mais en tout cas, c'est les mêmes. ce sont les mêmes, ils viennent des mêmes endroits, ils pensent la même chose et ils sont loin de nous. Et effectivement, l'expression « loin de nous » revient et elle couvre les journalistes et les hommes politiques. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi quelque chose à voir. Il faudrait quand même que le métier de journaliste représente l'univers sociologique français plus qu'il ne le fait en ce moment. Et tant qu'on n'a pas c'est comme en matière de diversité. Il faut que ce soit plus, il faut que les journalistes soient plus conformes au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et puis qui travaille.
Michel,
aussi,
certains font l'amour autour de la table. Mmh. Vous n'avez pas l'air d'accord, Robert.
Ah, si, au contraire. au contraire. Je disais même que.
Non, mais on le regrette, ce que je dis. Je le regrette moi-même.
Effectivement, non, mais parce que. Non pas la connivence, mais l'espèce de soumission au pouvoir économique. On voit quand même citer beaucoup les 8 ou 9 milliardaires, entre guillemets.
Ouais, je te rappelle que les gilets verts n'y font pas allusion. Il n'y a pas une allusion au parachute doré.
Je parle des gilets jaunes.
Non, mais gilets jaunes. Oui, pardon, il n'y a pas de gilets verts.
Pardon, ça m'abuse, parce que ma maman fait le même lapsus, c'est pour ça. Les gilets verts. Parce que moi, je les vois verts, c'est vert fluo pour moi.
D'accord.
Je l'embrasse très fort.
Catherine.
Oui, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut bien voir que la presse, qui sont les propriétaires des journaux, qui payent les journalistes, ce sont heureusement qu'il y a des milliardaires en France, parce qu'autrement, il n'y aurait plus de journaux aussi. Donc, franchement.
Mais le fait que les milliardaires soient possesseurs de la presse, ne signifie pas forcément que les journalistes sont soumis à ces milliardaires.
Et d'ailleurs, eux-mêmes disent que quand on a un journal, il est très difficile d'y faire passer ses idées et qu'ils laissent la presse tout à fait libre. Mais donc il faut les remercier d'autant plus. Bon.
Ouais. Pour en revenir à ce que nous disions, cela dit, parce qu'on a parlé des médias et c'était important de l'évoquer, quand on teste les personnalités politiques dans cette étude du CVPOF, ça n'est guère plus glorieux.
Mais oui, et c'est ce qu'il y a en ce moment, cette crise qui est terrible pour Macron, dont on demande la démission sur tous les ronds-points, on voit bien que non plus personne ne canalise cette colère et personne n'a envie de se rallier à quelque panache qui soit. Il n'y a pas de solution alternative. Et là, dans cette enquête, ce qui est très intéressant, alors qu'on dit c'est Marine Le Pen qui va en retirer les avantages et qui se voit peut-être déjà présidente de la République dans 3 ans, mais on voit bien que dans ce sondage, 62% des gens interrogés disent n'avoir jamais eu confiance en elle. Donc ça n'a pas remonté depuis son débat raté avec Macron. Elle est toujours, c'est toujours le même taux d'absence de rejet. Donc les gilets jaunes, dont elle dit, mais la plupart des gilets jaunes, c'est des gens de chez moi, j'ai pas besoin de mettre un gilet jaune. Enfin bon, mais on voit bien que ces gilets jaunes, ils font partie de la minorité des 12% qui la soutiennent, elle. Et ce rejet, c'est aussi, il y a la même chose pour Laurent Wauquiez, qu'il y en a 62% qui ne lui font pas confiance, et la même chose aussi pour Mélenchon, là c'est 61%.
Mais ça fait presque peur. Parce que, au fond, dans toutes les crises sociales qu'on a traversées depuis, mettons, le début de la Ve République, on ne les a pas toutes traversées, surtout pas vous. Mais enfin, on a traversé pas mal.
Je les ai un peu étudiées quand même.
Il y avait quand même souvent une figure tutélaire auquel on pouvait se raccrocher. Ça a été le cas à la fin de la Ve République où il y avait De Gaulle. Et puis ça a été aussi le cas en 68 où, in fine, il y avait De Gaulle, il y avait Pompidou, en plus, ils étaient même plusieurs. Là, cette fois-ci, on ne voit pas de personnalité qu'on puisse appeler comme un recours, sauf le président existant qui est mal placé, effectivement, dans la liste des popularités.
19h47.
Europe 1.
Alors, je vous propose d'écouter ce petit son d'Emmanuel Macron. Cet après-midi, il recevait la Fédération des boulangers, la galette à l'Élysée. Écoutez ce qu'il dit.
On n'a rien dans la vie s'il n'y a pas cet effort. Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Que parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, il y a des devoirs. Et notre République n'a rien à envier à beaucoup d'autres pays, je peux vous le dire à cet égard. S'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion, ce qui fait son histoire et, je le crois encore, son présent et son avenir.
Emmanuel Macron, cet après-midi, alors est-ce qu'il met de l'huile sur le feu à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes? Nous en parlons avec les grandes voix dans un instant. Il est 19h48.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir, Catherine Ney, Michel Cotta et Robert Namias.
Alors les Français, beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir quelque chose sans effort.
Emmanuel Macron, est-ce que déjà sur la petite phrase, parce que je vois déjà que ça y est, une fois qu'il l'a dite, cette phrase, c'est parti sur les réseaux sociaux, ça s'anime sur les chaînes d'information. Est-ce que en soi, c'est un dérapage, pas nécessairement, si Catherine Ney.
C'est-à-dire qu'on voit que Emmanuel Macron a eu raison de ne pas choisir la diplomatie à l'ENA, parce que il dit quelquefois des choses à la veille d'une manif où tout peut être retenu contre lui. Bon, alors ça veut dire les gilets jaunes vont peut-être le prendre contre eux en disant ils ne font pas d'efforts, ce sont des paresseux. Alors c'est ça, alors qu'ils ont peut-être été des gens qui triment dur, qui on ne sait pas quelle est leur vie, mais ça serait très dommageable s'ils le prennent pour eux. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que c'est vrai l'emploi ne repart pas, mais le nombre d'emplois qui sont proposés à des gens qui ne les acceptent pas. J'avais un maire qui me disait qu'il avait offert, que depuis des mois, il cherche, par exemple, une femme qui soit caissière à la piscine pendant le week-end dans sa ville, pas mal payée. Les femmes répondent qu'elles ne veulent pas travailler le week-end.
Robert.
Oui, moi je pense que, poser la question de savoir si c'était une provocation ou pas. Je pense surtout que ce n'est pas tout à fait du niveau du président de la République, c'est un peu le café du commerce. C'est vraiment, toutes les Anglaises sont rousses et tous les Français font je ne sais pas quoi. Je veux dire, les Français, beaucoup de Français n'aiment pas l'effort ou pensent qu'on peut très très bien gagner sa vie ou y arriver sans effort. Les Français, mais ce n'est pas les Français, ils pouvaient tout à fait faire l'apologie de l'effort.
Nos concitoyens,
bah oui, mais c'est encore, c'est pire encore, je crois. Mais c'est ce que j'appelle... faire le café du commerce, c'est pas digne du président de la République.
Je
pouvais tout
vous
à
disiez,
fait
oui,
parler
oui.
de l'apprentissage, s'appuyer sur le fait qu'il était devant des jeunes boulangers pour les féliciter, étayer le fait que pour effectivement progresser dans la vie, il fallait soit passer par un apprentissage, une volonté de voir de réorientation en formation professionnelle, etc. Mais ça n'est pas obligé, il n'est pas obligé de faire le café du commerce et de balancer comme il l'a fait à plusieurs reprises, ce qui lui a coûté très cher, ce qui lui coûte très cher d'ailleurs. Les Français sont ceci, les Français sont cela, les Gaulois sont ceci, etc. Mais enfin, il n'y a pas un peuple français de 66 millions d'habitants. Les gens sont beaucoup plus divers que ça quand même.
Michel Cotta.
On voit très bien qu'il a beaucoup de mal quand même à changer son logiciel. Son logiciel, c'est celui-là. C'est l'effort, c'est au fond, c'était un logiciel proche de celui de Nicolas Sarkozy.
Oui, plus on travaille, plus pour
voilà,
plus,
travailler
il
plus,
avait fait
travailler
les
plus
sur elle,
l'effort, vivre l'effort. Bon. Peut-être il aurait dû le dire autrement, mais je crois qu'on ne le changera pas, non, pas plus alors, qu'on a changé d'autres présidents.
Le dire, ne pas le dire, le dire autrement, le dire maintenant.
Mais le dire la veille d'une manif. Quand
même, le dire au boulanger.
D'un énième
Oui, sauf qu'il
acte,
le dit au boulanger et qu'il veut rendre, rendre grâce aux boulangers qui travaillent très tôt le matin et on leur rend grâce aussi d'ailleurs.
L'apologie de l'effort et du travail sans impliquer les Français comme il le fait. C'est tout, voilà.
Je suis d'accord.
La journée de demain, décisive, volcan à éruption hebdomadaire.
Pas
comme
plus
dit
décisive
le monde,
que celle de la semaine dernière.
Non,
suivant,
non, non sauf que les préfets ont très peur.
Les préfets ont très peur.
Les préfets, les maires ont très peur et les instructions
demain,
sont.
Il risque d'y avoir des violences dans les villes.
On suivra très près. Nous étions avec le maire de Bourges en ligne un peu plus tôt dans ce grand journal. 70 000 habitants qui s'attendent à voir la mobilisation des Gilets jaunes. On suivra évidemment, vous ne manquerez rien sur Europe 1, vous le savez, sur Europe 1.fr également. Merci à vous trois et bon week-end. Enfin, vous travaillez demain, Catherine ?
Mais oui, avec
demain,
plaisir.
Demain sur Europe 1, Catherine Ney. Et puis Michel Cotta, Robert Namias, je vais quand même citer... Le roman de nos grandes voix, Fake News, un thriller politique paru chez Robert Laffont. Nous en parlerons un peu plus tard dans ce grand journal du soir. Merci à vous trois.
Merci Mathieu.
Et bonsoir
Mathieu.
Mazoyer.